Halites obstetricans est un amphibien anoure appartenant au sous-ordre des Opisthocoela et à la famille des Discoglossidae. Ce n'est donc pas un véritable crapaud. Il ne va à l'eau que par les nuits les plus chaudes. C'est le plus terrestre de tous nos anoures. C'est un animal nocturne. Ses yeux sont très développés et saillants. La pupille est verticale et de forme losangique. La membrane tympanique est très nette. Juste au-dessus du tympan, observez la glande parotoïde, qui est peu développée, mais sécrète un poison violent. Elle est suivie de chaque côté du corps d'une série de glandes. On le trouve au bord des cours d'eau, sous les pierres, où il reste caché pendant le jour. Il affectionne aussi les parcs et les jardins. Sa taille n'excède pas 5 cm. On l'appelle communément crapaud accoucheur, parce que c'est le mâle qui, pendant l'accouplement, accouche la femelle en lui pressant les flancs. Puis, après avoir fécondé les œufs, enroule leur chapelet autour de ses pattes et en prend soin pendant les 3 semaines que dure l'incubation. Lorsque le temps est trop sec, les mâles se rendent à l'eau durant la nuit pour humidifier la ponte. Ce bain de courte durée permet une réhydratation de l'œuf et principalement du vitellus. La ponte, qui comprend une 40aine d'œufs, est solidement attachée au niveau de l'articulation tibio-tarsienne par les cordons reliant les œufs. L'œuf, qui mesure de 3 à 4 mm, est très riche en vitellus. De ce fait, la segmentation est partielle et n'affecte qu'un disque mince de protoplasme pur qui contient le noyau de fécondation. Il est protégé par 2 capsules transparentes qui sont sécrétées par l'oviducte au moment de la ponte. La capsule externe est tirée entre les œufs successifs constitue un cordon très résistant. Après les phénomènes de blastulation et de gastrulation, l'embryon apparaît couché à plat sur la masse vitelline qui est en fait annexée à son ébauche digestive. La partie la plus large de l'embryon correspond aux renflements cérébraux. Rapidement, les cupules oculaires apparaissent alors que l'embryon est encore inerte. De plus, nous voyons que le nom d'halites, qui signifie enchaîné, convient parfaitement à ce mâle. Au bout d'une semaine environ, l'embryon présente des contours nets et peut se mouvoir dans la coque. Bien que toujours distincte, la vésicule vitelline est déjà intégrée dans l'appareil digestif. Le corps est globuleux, sans division apparente. La région postérieure, correspondant à la queue, n'est plus accolée au sac vitellin. Dans la région antérieure, les narines se situent de part et d'autre d'un léger renflement médian. La cupule optique, qui correspond à la future rétine, montre la fente colobomique. L'appareil circulatoire est bien développé et irrigue de longs filaments branchiaux qui baignent dans le liquide périvitellin. Chacun renferme une anse capillaire dans laquelle on observe le déplacement des globules rouges. Le liquide périvitellin, brassé par le mouvement de l'embryon, a des échanges d'une part avec le milieu extérieur, grâce à la perméabilité des capsules, et d'autre part avec les branchies. Il n'y a de chaque côté qu'une seule branchie formée d'une dizaine de filaments. La circulation vitelline est importante, car c'est elle qui assure toute la nutrition de l'embryon. Sur cet embryon extrait des capsules, on peut observer en dessous de l'œil le sillon buccal, et entre la vésicule vitelline et la naissance de la queue, la papille cloacale. Les branchies externes régressent et sont remplacées par des branchies internes. Au-dessus du cœur, on observe la bouche, qui est entourée d'une lèvre circulaire armée de petites dents cornées noires. Les téguments qui recouvrent la région cardiaque se pigmentent de plus en plus. Juste au niveau du cœur, la cavité branchiale communique avec l'extérieur par le spiracle qui est donc ventral et médian chez cette espèce. La vésicule vitelline réduite est entièrement intégrée à l'embryon et se spiralise. Cette vésicule spirale, qui renferme encore du vitellus, constitue alors l'intestin du jeune batracien. Les branchies externes ont totalement régressé. La cupule oculaire est recouverte par les téguments pigmentés. De ce fait, l'œil ne semble plus aussi disproportionné qu'au premier stade. Le jeune est maintenant au stade têtard et fort à l'étroit dans les capsules distendues. Le moment de l'éclosion approche. Le mâle, qui a pris soin de sa progéniture en lui assurant les meilleures conditions de développement et en la protégeant contre les prédateurs, va terminer sa mission en portant la ponte dans un ruisseau ou une mare permanente. Les têtards vont alors dissoudre leur capsule au moyen d'une sécrétion élaborée au voisinage des narines et sortir rapidement de leur prison. Un léger ralenti nous permet de mieux observer cette opération. Le jeune têtard mesure 15 mm à l'éclosion. Sa croissance sera très rapide car au bout d'un mois environ, sa taille atteint 90 mm et dépasse donc celle de l'adulte. Les larves nées au printemps se métamorphoseront et quitteront l'eau au bout de 3 mois. Celles qui naissent au début de l'automne attendront le printemps pour mener une vie terrestre.